Chapitre 17e avec l'armée. Arrêtez-vous au col de Carrie et regardez vers le nord dans l'air frais du matin. À vos pieds se déroule une plaine d'un vert sombre où se détache, de loin en loin, la blancheur d'une ferme. Un grand ravin la coupe par le travers. Des collines enferment de tous côtés l'horizon. À leur base, devant vous, il y a une rangée de maisons et un clocher, ses brins fortes, distants de 10 000. Nous nous disposons à l'attaquer. Les troupes se portent en avant, les lignes de rouge et de kaki se succèdent, les colonnes d'artillerie les accompagnent d'un grondement de tonnerre. Deux hommes, à côté de nous, arrêtent leurs chevaux sur un monticule et leurs jumelles fouillent là-bas les maisons. Deux types de bravoure, l'un élégant, charmant, soigné, les yeux rieurs, la moustache retroussée en pointe, un beau visage avec un air de gaminerie espiègle, l'autre, renfrogné, farouche, tout nez et tout sourcil, visage de brique où la peau, écaillée par le soleil, tombe de place en place. Le premier est Paul Carew, général de division. Le second est le brigadier Stephenson. Nous sommes en train de découvrir les hommes qu'il nous faut. L'un et l'autre sont du nombre. En voici un troisième qui mérite qu'on le distingue. Aussi bien essayeriez-vous vainement de ne pas le remarquer. Large d'épaule, grande barbe toute noire, s'épandant sur la poitrine, apparence moyenâgeuse d'un chevalier errant. C'est Crabbe, des grenadiers de la garde. Il retient un instant son cheval pendant que la garde défile devant lui. J'ai eu mon compte, déjà 4 balles. J'espère n'en pas recevoir aujourd'hui une de plus. Vous devriez être à l'hôpital. Quant à cela, j'ose ne point partager votre avis. Il repart à côté de ses hommes. Voyez les jeunes officiers de la garde, dandys de Mayfair. Pas des soldats de salon, ceux-là. Mais des hommes qui ont passé 6 mois sur le Belde et combattu de Belmont à Bloemfontein. Leur démarche est fringante, leurs bandes moltières sont bien roulées. Il faut encore penser au West End. En vous aidant de la jumelle, vous suivrez la manœuvre sous l'extrême lisière du ciel. Voici l'infanterie montée de Hutton, qu'il prendrait de flanc toute résistance. Aussi loin que la vue s'étend sur la droite, c'est la division Tucker. Par-delà viennent l'infanterie de Ian Hamilton et la cavalerie de French. Le front mesure au total une bonne 30 000. 35 000 hommes vont à l'attaque. À notre tour maintenant, nous avançons dans la grande plaine, l'infanterie, déployée en ordre dispersé, une compagnie par 2 000. Regardez les éclaireurs et les flanqueurs. Nous n'aurions pas ainsi avancé il y a 6 mois. Ce qui nous rend redoutables, c'est moins l'appoint du nombre que le renouvellement de la tactique. Les artilleurs ont décroché leurs avant-trains, les pièces sont prêtes. Paul Carew trotte comme un écolier en vacances. « Qu'est-ce qu'il a vu, mon vieux Tucker ? » demande-t-il, la jumelle collée aux paupières. « Il vient d'expédier un ordre aux éclaireurs. Là, regardez-moi mon aide-de-camp. Il a galopé le long du ravin pour vérifier si Desbourg n'y était pas à l'affût. En a-t-il pris la permission ? Vous allez voir. Quand je l'interrogerai, il prétendra qu'il pensait me trouver par là. « Eh bien, monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas revenu par le plus court ? Mais c'est ce que j'ai fait, monsieur. Non, vous avez longé le ravin. Je pensais vous trouver là. » « N'ajoutez pas le mensonge à vos autres vices. » L'officier, en nous rejoignant, rit sous cap. On m'avait tiré dessus. Je n'ai pas osé le dire au vieux. Rap, rap, rap. Fusillade sur le front. Toutes les oreilles se dressent. Est-ce une alerte passagère ou le prélude d'une bataille? Les coups de feu partent de la ferme que voilà. La 63e batterie de campagne commence de s'agiter autour de ses pièces. L'officier va, vient, observe la ferme. Deux hommes, l'un à droite, l'autre à gauche, tendent des cordes et poussent de longs cris monotones. C'est eux qui détermineront les portées. Sur un avant-train, un canonnier, le menton entre les mains, s'absorbe dans la lecture d'un magazine. « Nos éclaireurs ont dépassé la maison, » dit un officier. « Ça va, » dit le major. On amène les avant-trains, la ligne entière avance sur la ferme, puis on met pied à terre, halte pour déjeuner. Mais qu'est-ce ceci ? Un incident inattendu et sinistre. Un Tommy amène dans la cour un élégant boguet attelé de 2 chevaux, le tout confisqué au profit de l'armée. La ferme est de bonne prise. Ses occupants n'ont-ils pas tiré sur nos troupes? Ils n'ont pu s'empêcher de tirer, les pauvres diables. Mais il faut que nous décourageons ces façons de nous canarder. Nous ne faisons plus la guerre avec des gants, le détail n'en est pas beau. Une jeune fille accourt vers nous, épouvantée. Est-il permis qu'on tue la volaille? Hélas, débattre la question serait superflu. La volaille est déjà morte. Indignée, dressée de tout son haut, la jeune fille chasse devant elle ses 3 dindonneaux. Les hommes la regardent curieusement, mais ils ne touchent pas à ses bêtes. Voilà qui est pire. Un gros cochon blanc passe, tout ensanglanté. Un soldat le poursuit, baïonnette en main, et lui en pousse, coup sur coup, plusieurs bottes. L'animal crie atrocement. J'aurais plutôt vu tuer un homme. Des soldats montés au grenier lancent au dehors le fourrage. D'autres arrachent des légumes. Un autre boit du lait dans un étrange vase et ses camarades autour de lui s'esclaffent. On dirait une scène burlesque du Moyen-Âge. Survient le général. Il n'a point de consolation pour les femmes. « La maison s'est attirée, ce qui lui arrive ?» Il repart. Un pasteur anglais lui succède. « Je ne conçois pas, dit-il, qu'on ne brûle pas la maison. » Un garçonnet le regarde avec de grands yeux gris étonnés. Il racontera tout ça plus tard à ses petits-enfants, quand nous serons dans la tombe. « La guerre est une terrible chose, » dit la mère, en hollandais. Groupés devant les portes et les fenêtres, les Tommies contemplent la famille à l'intérieur. Aucune brutalité individuelle. Un cafre apparaît dans la pièce. « Un cafre ! » s'écrie la jeune fille, dont les yeux en le voyant jettent des flammes. « Oui, un cafre ! » jette l'intrus avec un accent de défi, mais il ressort tout de suite. « On ne brûlera pas la maison, n'est-ce pas ? » demande la mère. « Non, non, lui répond-on, on ne la brûlera pas. » Nous reprenons notre avance après le déjeuner. Les maisons et le clocher de Brentford se rapprochent. « Boum ! Boum ! Boum ! » Le canon, enfin. Il tourne très loin du côté de Tucker. De petites bouffées de fumée blanche traînent sur le vert des collines aux endroits où portent nos obus. Braquez votre jumelle, à 8 000 d'ici, vous verrez une batterie anglaise en action. La chute d'un obus ennemi fait parfois voler au-dessus d'elle un nuage de poussière. L'on n'aperçoit pas un seul bourg. Boum, boum, boum. Cela devient monotone. Le vieux Tucker se fâche. Au diable le vieux Tucker, et poussons ce Brentford. Nous voilà repartis. Le feu s'éteint sur la droite. Nous avons eu un canon arraché de ses roues et 12 hommes frappés. Melton a effectué un mouvement tournant et se rabat sur la gauche de Brentford. Un pom-pom croasse parmi les hauteurs, comme un affreux oiseau. Notre artillerie montée fait tonner ses pièces. Les shrapnels éclatent sur la ligne des sommets. L'infanterie mène l'attaque. Elle baisse le dos, accélère le pas. Nous galopons vers le front, mais la résistance a fléchi. Les fantassins montés s'élancent. Les canons se taisent. Devant nous, les hauteurs s'allongent, paisibles et baignées de soleil. Je retraverse à cheval l'infanterie, massacré en poule qui a crevé sur mon orteil. Coquin de bidon ! Un homme sur deux a une pipe entre ses lèvres sèches. La ville est sur la droite, 2 000 de plaine nous en séparent. Dans la plaine, un cavalier est en train de rabattre des juments accompagnés de leurs boulins. Je le reconnais au passage. C'est Burdett Coates, un mondain bien connu. Maxwell, du Morning Post, nous propose de pousser à tout hasard jusqu'à la ville. Nos hommes y sont certainement. Nous n'en voyons pas un devant nous. Mais qu'importe, essayons. Maxwell, après m'avoir dépassé, me fait la politesse de m'attendre et nous entrons dans la ville botte à botte. Oui, tout est pour le mieux. Voici dans la grande rue un éclaireur de Remington. Que dis-je, hein ? Ils sont tout un groupe. Des cavaliers encadrent un jeune prisonnier bourg. Il ne semble pas trop ennuyé. Il est très énergique, plutôt vulgaire. Il est bien habillé. On dirait à le voir un jeune propriétaire rural de chez nous sur un terrain de chasse. « Il aime beaucoup les dames, » nous dit le sergent australien. « Je voulais, répète-t-il, les faire sortir de la ville. » On en amène un autre. Entre lui et l'homme qui l'a pris s'établit ce dialogue. « 1 minute de plus et je vous échappais. » Vous m'auriez échappé si vous aviez eu seulement le courage d'un pou. » Et la conversation traîne. Arrive au galop l'état-major. Nous tenons la ville. Un Irlando-américain aux cheveux roux s'est laissé prendre par les nôtres sur un copier. « Que diable cela peut-il vous faire ? » répond-il à toutes les questions qu'on lui pose. « On conduit à la prison ce malotru. » Nous trouvons en larmes la patronne de notre petit hôtel. Son mari est en prison pour avoir été trouvé possesseur d'un fusil. Nous intervenons et on le relâche, à la suite de quoi il nous fait payer 4 shillings et une demi-bouteille de bière. Nous nous demandons si nous n'allons pas le faire remettre sous les verrous. « Je ne suis plus maître chez moi » s'écrie-t-il. « La maison est pleine d'énergumènes !» Et ses yeux se mouillent de pleurs. Son bar est tourné d'images pornographiques pour l'amusement de nos bons amis fermiers. Ce n'est pas le premier signe, ni le second, où je connais que la vie pastorale et des croyances puritaines n'impliquent pas un degré très élevé de moralité publique. Nous nous asseyons sous la véranda et fumons au clair de lune. Un ivrogne descend la grande rue. Un Tommy d'aspect fort sale y est en sentinelle. Halt, qui va là ? Un ami. Le mot d'ordre ? Je suis un Anglais, un homme libre. Le mot d'ordre ? Je suis un... Bruit du fusil épaulé par la sentinelle, scintillement de la baïonnette. « Arrêtez-vous, imbécile !» cria un vieux journaliste. « On va vous tirer dessus. Ne tirez pas, sentinelle !» Le Tommy relève à contre-cœur son fusil et s'approche de l'homme. « Que faut-il que je fasse de lui, monsieur ? Ce qu'il vous plaira. » « Je cause politique avec des gens de l'État libre. La meilleure façon d'aborder le sujet, c'est de demander, sur un ton de curiosité, « Enfin, pourquoi nous avez-vous déclaré la guerre ?» L'état d'esprit qu'ils ont fini par se faire est tellement celui de l'innocence offensée qu'on leur porte un coup en leur rappelant qu'ils furent les agresseurs. Ce procédé socratique a d'intéressants résultats. Évidemment, ils avaient cru à une victoire facile. De là, chez eux, maintenant, une rancune très vive contre le Transbal. Ils ont un dégoût mortel de la guerre. Et c'est aussi le cas chez bon nombre de nos officiers. Pour ceux-ci, parfois, il m'a semblé qu'un pareil sentiment serait plus judicieux, et même plus honorable, s'ils proclamaient un peu moins ouvertement à quel point ils en ont soupé. De tels propos ne peuvent encourager leurs hommes. Au surplus, il n'est pas douteux que l'armée se mutinerait si l'on acceptait de l'ennemi d'autres conditions qu'une reddition complète. Et quoi que disent nos officiers, je suis convaincu que bien peu consentiraient, si on les y autorisait, à revenir chez eux avant la fin de la campagne. Nos sapeurs des chemins de fer sont étonnants. Malgré les ponts effondrés, les canaux d'écoulement détruits, les amas de ferraille tordus, les dégâts de toutes sortes, le train a pu, dès le lendemain de notre arrivée, remonter jusqu'à Brantford. Nous sommes prêts pour une nouvelle avance de 20 000 en direction de Pretoria. Le fleuve Bête est cette fois notre objectif. Nous partons le matin à la première heure. Une autre plaine verte, parsemée de fermes. L'immense colonne kaki s'y déploie lentement. La chaleur est si forte qu'au bout de 10 000, les gardes en ont assez. Des traînards sont couchés par tas sur l'herbe. Cependant, les compagnies gardent leur formation en ligne double et poursuivent régulièrement leur pénible marche. 10 000, cela semble n'être pas grand-chose. Essayez de les faire, par un jour brûlant, dans la poussière que soulève une colonne, avec un fusil sur l'épaule, 100 cartouches, une couverture, un bidon, une gourde vide et une langue sèche. Un aumônier à barbe grise tire bravement la jambe à côté de ses hommes. « Non, non, me dit-il quand je lui offre mon cheval. Je ne viens pas laisser de moi un fâcheux souvenir. » Les hommes montent en silence. Pas de fanfare, pas de chant. La colonne est comme un grand flot morne qui roule sur le Beld. Officiers et soldats échangent leur mauvaise humeur en paroles brèves. « Pourquoi est-ce que vous... » glapit à tout propos un officier, et le caporal lui répond. « Parce que je n'entends jamais ce que vous dites. » Halte pour le repas de midi. J'ai l'impression, en circulant à travers les rangs, que nos officiers abusent de la gronderie. Nous avons trop sacrifié aux méthodes militaires allemandes. C'est plutôt sur les américaines que nous aurions dû prendre modèle. Car elles résultent de l'expérience acquise par les anglo-celtes dans la plus grande guerre que les anglo-celtes aient jamais eu à soutenir. Nous repartons. Quelque chose nous attend-il là-bas, à l'endroit où s'allonge la ligne basse des Kopjes ? Les bourgs ont toujours tenu les cours d'eau. Ils ont tenu la Moder. Ils ont tenu la Tugela. Tiendront-ils le Bête ? Et là, qu'y a-t-il ? Un homme arrive sur un cheval gris pommelé. Il est en bonne nuit et tout ému. Il gesticule. Nous saisissons quelques mots. Une 50aine, sale coin, perdu mon casque. Mais que vois-je sur la robe du cheval ? Une balle l'a frappé au flanc. Des filets de sang noir strient son pelage fumant tandis que tranquillement il broute l'herbe. « Australien du Sud, monsieur. Un feu terrible. Il nous a tendus à 50 yards avant de lâcher pied. Quel copie, celui-là. » Nous piquons des deux à travers la ligne des tirailleurs de la garde. Derrière nous s'avancent majestueusement, traînés par leurs 30 bœufs, les deux formidables canons de marine, pareils à d'énormes bouteilles de vin du Rhin couchées sur des roues. Devant, une batterie décroche ses avant-trains. Nous allons jusque-là. Près du copier s'élève une petite ferme couverte de tuiles. L'infanterie montée s'est formée en masse. Elle se dirige vers nous. « Voilà le cirque, on va se battre !» disaient les fantassins dans la guerre d'Amérique. « Notre cirque arrive. Peut-être la bataille va-t-elle venir ?» La batterie, le 84e régiment d'artillerie de campagne, se met à l'œuvre. « Bam !» Je vois l'obus éclater sur le versant d'une hauteur. « 3 500 !» dit quelqu'un. « Bam !» et la voix dit. « 3 250 !»« Bam !»« 3 300 !» Une fumée s'élève du toit de la ferme, on dirait d'un feu de cheminée. Ça y est cette fois, la partie a l'air de ne se jouer que d'un côté. Mais qu'est-ce que cette détonation lointaine ? Un gémissement de ventre affamé, puis un bruit sourd, ouf, et à 100 yards, en avant de la batterie, le sol jaillit en une immense gerbe. les canonniers n'y font pas plus attention que si on leur relançait une pomme de terre. À 50 yards, le tir se précise. Bang, bang, réplique de ton cassant les canons anglais. À 50 yards en arrière, le prochain obus portera, c'est fatal. Les canonniers ne mangent pas. Juste entre deux pièces, by George, un nuage de poussière nous les masque. Combien reste-t-il de nos canonniers? La poussière se dissipe, les canonniers poursuivent, impassibles et courbés, leur dure besogne. Un autre obus, un autre, et puis encore un autre, mais celui-ci d'une espèce différente. Il éclate très haut. Bam! Avec une sorte de résonance musicale analogue à celle d'un tambour, et le sol, labouré sur la surface d'un acre, vomit de petits nuages de poussière. Les canonniers ne s'en occupent pas. Percutant ou fusant, envoyez-leur ce qu'on voudrait. Il vous faudra faucher haut mes canons pour en finir avec l'artillerie royale de campagne. Mais tous les obus éclatent bien. C'est pure chance qu'une moitié de la batterie ne soit pas démolie. Une fois seulement, je vis un homme reculer la tête de quelques pouces au moment où éclatait devant lui un projectile. Les autres semblent n'être que les organes d'une machine automatique. Cependant, l'officier a décidé de déplacer les canons. On les déplace. Ils s'éloignent autour des chevaux d'un demi-mille sur la droite et rentrent aussitôt en action. Le héros isolé, voilà l'homme digne d'admiration. La bravoure est facile quand elle est collective. Quiconque a le moindre sens des proportions se sent un si chétif insecte devant l'histoire en train de s'accomplir que son intérêt personnel lui semble compter trop peu pour qu'il s'en soucie. L'unité se perd dans la masse. En se portant sur la droite, la batterie nous a laissés tout seuls dans la plaine. Le fracas des obus tend singulièrement les nerfs d'un novice, mais cette tension ne va pas sans quelque chose d'exhilarant. À 200 yards de l'endroit où nous sommes, il y a une clôture. Nous y attachons nos chevaux, puis nous allons et venons, la jumelle aux yeux, tâchons de repérer l'emplacement des canons-bourgs. Nous nous en doutons un peu, mais c'est tout. Nous ne sommes pas très sûrs que nos canonniers le sachent. Un canon abrité en vaut 6 bravons installés à découvert. Ces fermiers ont fait la leçon à nos fantassins. Ils pourraient bien, en matière d'artillerie, amener une révolution universelle dans les méthodes. Entre nos canons et les leurs, la lutte ressemble à celle d'un aveugle avec un clairvoyant. Un colonel d'artillerie est là, qui rôde. Il n'a point de part à l'affaire. Il vient, en amateur, voir comment se comportent les canons d'un autre. Un obus éclate tout près de nous. « Le prochain, dit le colonel, nous arrivera sur la tête. Venez par ici, restez-y. » J'obéis, mais en faisant mes réserves mentales. « Le voilà qui arrive, sur moi, pensais-je. » Il éclate à 40 yards sur notre droite. Je ramasse un éclat comme souvenir. En attendons-nous un autre? Je commence à regretter d'avoir rencontré le colonel. Nouvelle émotion. Nous regardons derrière nous. Les deux monstrueux canons de marine sont sur le point d'ouvrir le feu à 50 yards de l'endroit où nos chevaux, à l'attache, forment une ligne immobile derrière les épouvantables gueules. Nous n'avons que le temps de courir les détacher. Bang! Et un bang comme il n'en avait pas retenti encore. Une colonne de fumée, blanche sur les bords et noire au centre, surgit d'une hauteur à l'arrière-plan de l'horizon. J'y peux voir, comme des fourmis, courir des cavaliers, des bourgs fugitifs. Nos hommes retirent du canon l'énorme douille de cuivre. Puis-je la prendre? Certainement, monsieur, me dit le lieutenant. J'éprouve, en la fixant à ma selle, quelques remords des longues souffrances que j'inflige à mon cheval. Le gros canon tonne, tonne sans cesse, et les collines à l'horizon crachent sans répit des jets de fumée. Des fantassins passent. Je fais un bout de chemin avec eux. Ce sont les gardes écossais. La première ligne continue d'avancer alors que la seconde a fait halte et s'est couchée à terre. « C'est ça, faites-vous bien voir !» crie de la seconde ligne des voix gouailleuses. « Qu'est-ce à dire ?» Le jeune officier de la première ligne se retourne. Il est rouge de colère. « Silence » crie-t-il. « Ce n'est pas à tout le monde de donner des ordres. Moi seul commande ici. » Ces hommes s'aplatissent. Le soleil décline. L'assaut prévu de l'infanterie n'aura certainement pas lieu. Un des grands obus de marine passe par-dessus nos têtes. Il fait le bruit d'un train, à distance, sous un tunnel. Un cavalier arrive au petit galop. Il porte un brancard sur l'épaule, et malgré l'allure tranquille de son cheval bai, ce brancard lui donne un air de déséquilibré. Il dépasse les canons et l'infanterie, plonge dans un champ de maïs. Il est à un demi-mille à présent, et se dirige vers le copje. Je m'attends à le voir, d'un moment à l'autre, dégringoler de cheval. Il disparaît dans un pli de terrain. Au bout d'un moment, le brancard reparaît. Deux hommes le portent, escortés par le cavalier. J'ai des bandages dans mes poches. Je m'avance. Un médecin a-t-il vu le blessé ? Non, monsieur. On pose le brancard. Le blessé a un mouchoir sur la figure. Où est-il touché ? Au ventre et au bras. Je soulève la couverture. La balle Mauser est sous la peau. Elle a pénétré en séton sans mordre plus avant. Une incision faite avec un canif suffirait à l'extraire. Mieux vaut néanmoins attendre l'hôpital de campagne et le chloroforme. Au bras, une jolie blessure, très propre. Rien de grave. Votre nom ? Soldat Smith, monsieur, néo-zélandais. Je me nomme et désigne l'hôpital Longman à Bloemfontein. J'ai lu vos livres, me dit le soldat, et on l'emporte. Le feu s'est calmé. Le soleil est très bas. Un dernier obus ennemi nous arrive après un long intervalle. C'est une insulte évidente, gratuite, à un bonsoir et bonne nuit dérisoire. Les deux canons de marine dressent le cou et rugissent de concert. Ce sera le dernier mot de l'Empire, sa puissante voix coléreuse au-dessus du Veld. Le disque rouge de l'astre s'est enfoncé au couchant, toué d'un pourpre cramoisi. Dans le ciel monte une lune blanche. Que s'est-il passé ? À qui reste la victoire ? Avions-nous engagé d'autres colonnes ? Nul ne le sait, ni ne paraît chercher à le savoir. La nuit, enfin venue, allongée sous les étoiles, je vois des signaux monter du front gauche sur la rivière. Ils m'apprennent que Hutton est là. Au matin, c'est de ce côté que l'ennemi se manifeste, mais les troupes étaient sur pied de bonne heure. Dès avant l'aube, le sourd battement du tambour se mêlait au craquement du menu bois, tandis qu'on mettait sur le feu pour le déjeuner les marmites de campagne. Aux premières lueurs du jour, nous avons eu un étrange spectacle. Une sorte d'ampoule géante se formait lentement sur le Veld. C'était un ballon que l'on gonflait, notre réponse aux canons embusqués. Nous entendons aujourd'hui ne faire fi d'aucune chance et jouer toutes nos cartes. Autre leçon que la guerre aura infligée à notre orgueil. Quand l'armée s'est mise en marche, l'outre absurde battait des flancs sur les têtes de colonnes. Nous escaladons les copieux où s'est tapi l'ennemi. Partout des étuis de Mauser, vides, des abris adroitement construits. Il y a, parmi les pierres, un paquet encore intact de cartouches vert de grisé. Malgré la perfidie de leur aspect, je doute qu'elles empoisonnent. Le vert de gris dans une blessure ferait plutôt l'effet d'un antiseptique. Ici, vraisemblablement, il est dû à une décomposition de la cire dans laquelle les balles sont plongées. Notre frère le bourg n'est pas le Boschiman, somme toute. Combattant solide, tenace, il joue un jeu serré, mais il ne triche pas. Nous disons au revoir à l'armée, car notre devoir nous rappelle à l'arrière au lieu que le sien est en avant. Pour elle, les balles, pour nous, les microbes, pour tous, l'honneur du drapeau. Rangées parses de fourgons, voitures d'ambulance, voitures particulières, impedimenta de toutes sortes rayonnent autour de nous. C'est une pagaille. La journée entière ne sera pas de trop pour s'y reconnaître. Quand nous en sortons, c'est pour nous une sensation étrange que de voir la plaine s'étaler toute nue jusqu'à Brentford. Nous serions en mauvaise posture si des cavaliers bourgs traînaient en bordure de l'armée. En passant sur ce qui fut hier le champ de bataille, nous nous arrêtons pour examiner les trous creusés par les projectiles ennemis. Il en est tombé trois sur un espace de 10 yards, et cependant, les fourmilières d'alentour sont restées indemnes, ce qui prouve à quel point le bombardement le plus intense est inoffensif pour une infanterie couchée. Aux empreintes laissées dans l'argile, il est visible que c'était de très gros projectiles, apparemment de 50 livres. Nous apercevons sur le sol un petit tas. L'équipement complet des hommes de la garde, musettes, bidons, tasses et jusqu'aux bandes molletières. Il s'est mis à l'aise pour agir avec plus de vigueur. Le pauvre diable doit s'en trouver aujourd'hui bien mal à l'aise. Un cafre à cheval rabat des chevaux dans la plaine. Il galope vers nous, noire figure pittoresque sur sa monture basuto, aux poils laineux et rudes. Il agite fébrilement la main du côté de l'est. Un Anglais, là, sur le Veld, blessé par les Hollandais. Nous annonce-t-il clairement. « Vivant ? » demande-nous. Il fait un geste affirmatif. « Quand avez-vous vu ?» Il désigne du doigt le soleil, puis un point plus éloigné au levant, ce qui doit signifier qu'il y a de cela 2 heures. « Pouvez-vous nous mener à lui ?» Marché conclu pour 2 shillings. Nous partons tous côte à côte. Nous traversons des champs de maïs et redébouchons sur le Veld. « Pardieu, qu'est-ce que cela ? » Une forme sombre, allongée, inerte, au milieu de ce terrain dépouillé. Nous galopons vers elle, nous sautons à terre. Un homme est couché là, trapu, musclé, brun, visage de cire jaune, un caillou de sang aux lèvres. Un bel homme, aux cheveux noirs, à la moustache noire, à l'expression sereine. Numéro matricule 410, infanterie montée des Nouvelles-Galles du Sud. Blessé, on l'a, par inattention, laissé sur place. Certains détails ne permettent pas de douter qu'il ne fût mort quand le cafre l'a découvert. Son fusil et son cheval ont disparu. Sa montre est posée devant lui, le cadran en l'air. Elle a marché jusqu'à 1 heure du matin. Aussi longtemps qu'il aura pu voir, le pauvre garçon a compté les heures. Nous examinons ses blessures. Évidemment, il a saigné à mort. Il porte une affreuse plaie au ventre, son bras est traversé de part en part. À côté de lui se trouve son bidon. Un peu d'eau y reste encore. Il n'a pas souffert des tortures de la soif. Particularité bizarre, sur son bidon est dressée une pièce d'échec, rouge. Sera-t-il mort en jouant avec? On pourrait le croire. Où sont les autres pièces? Nous les trouvons dans son sac, hors de sa portée. Drôle de troupier que celui qui emporte un échiquier en campagne. À moins qu'il n'ait chapardé celui-ci dans une ferme, je l'en soupçonne. Nous rassemblons les pauvres petits biens du numéro 410, une cartouchière, un stylographe, un mouchoir de soie, un couteau de poche, une montre Waterbury, et deux livres 6 shillings 6 pence dans une bourse éraillée. Nos mains se poissent de sang quand nous le soulevons pour le coucher sur ma selle. Instantanément, un essaim de mouches s'abat autour de lui. C'est horrible. Sa tête pend d'un côté, ses pieds de l'autre. Nous emmenons le cheval par la bride. Il plonge affreusement de temps à autre, et pour retenir le cadavre, nous l'attrapons aux chevilles. Grâce à Dieu, il ne tombe pas. La route passe à 2000. Là, nous le déposons au pied d'un poteau télégraphique. Une colonne du train monte dans notre direction. Nous demandons pour lui une sépulture décente. Son bras raidi tend au ciel un poing fermé. Nous le rabaissons et tout de suite il se relève, menaçant, agressif. Je jette sur le mort son manteau. Nous reprenons notre marche. Mais en nous retournant, nous voyons encore à distance la projection du bras levé. Ainsi finit cet enfant d'un homme. Un combat loyal, le plein air, une noble cause. Je ne sais pas de circonstances plus belles pour une mort. Un long, très long parcours sur des chevaux fourbus à travers une plaine sans limite. Ça et là, des cafres montés, des cris de grands cercles et s'élancent. J'ai idée qu'un peu de police montée ne serait pas de trop sur nos derrières. Sait-on ce que peuvent faire ces cafres parmi ces femmes solitaires où ne restent que des femmes et des enfants? Ce n'est certainement pas des chevaux à eux qu'ils rabattent de cette manière. Au bout de 10 000, nous quittons la route pour abreuver nos chevaux au barrage. Une jument noire, près de là, tourne sur elle-même et rue. Curieux qu'elle joue ainsi. Nous regardons encore. La voilà raide par terre. Encore un cadavre pour empoisonner l'air du Veld. Nous nous asseyons et fumons. Sur la route là-bas arrive un corps de cavalerie coloniale. Un corps fameux, comme nous nous en avisons en distinguant à la jumelle la couleur de ses cocardes. Mais, Seigneur, un peu de bon sens nous entrera-t-il jamais dans la cervelle? Combien nous faudra-t-il endurer d'humiliations et de désastres avant d'avoir appris le métier de soldat? Le régiment défile sans avant-garde, sans éclaireur, sans flanqueur, dans un pays ennemi coupé de ravins. Ah, que n'y a-t-il un Napoléon pour rencontrer ce régiment, arracher les épaulettes à son colonel et le saquer sur place, sans appel, sans discussion? Seul un homme de cet ordre pour un jour réorganiser totalement notre armée. Encore 6 000 dans la plaine. Voici 1 ou 2 000 de Brandfort, un petit convoi escorté par un détachement de la milice. Il prend une fausse direction, nous lui indiquons la bonne. L'officier qu'il commande se montre très excité. Il y a des bourgs sur cette colline. La colline n'est qu'à 1/2 mile environ sur notre gauche. Le renseignement nous intéresse donc. Nous suggérons qu'il s'agit peut-être de cafres. Non, non, il s'agit de cavaliers avec des fusils et des cartouchières. Voyez plutôt. Nous voyons en effet se mouvoir des silhouettes. Cependant, nous continuons à parler de cafres, et nous nous séparons de l'officier sans nous être mutuellement convaincus. Qu'il nous excuse. Nous attribuions sa nervosité à ce qu'il était très jeune et commandait son premier convoi. Mais nous devions apprendre le lendemain que l'infanterie montée avait passé la nuit à poursuivre les gens que nous avions vus. Sans doute la présence accidentelle du convoi nous aura-t-elle sauvés d'un voyage quelque peu plus long que celui que nous pensions faire. Un jour, à Brandfort, une nuit sur un wagon ouvert, et nous sommes de retour au café de la Dysenterie, boulevard des Microbes, qui est notre adresse à Bloemfontein,